Qu'est-ce que c'est?
Eh ben, c'est des loups.
Des loups à Paris, tu te fous de moi, non?
On est à côté du jardin des plantes. Ils sentent la viande.
Oh, les vaches, fous ton camp. Heureusement que les gens, eux, ils la sentent pas, la viande.
Oh, sois tranquille, mon petit vieux, ils la sentent. Seulement, eux, c'est des hommes. Et ils n'osent pas gueuler.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. Une question aujourd'hui qu'on a lancée, je l'avoue, sur les réseaux sociaux de manière un peu radicale. Et si on se passait de viande complètement? Mes deux invités du jour sont bien plus posés et pondérés que moi. Thomas Dufour est le chef du restaurant Les Bochoirs à Paris. C'est dans le 12e, près de la gare de Lyon, on est dans l'Est. Bonjour.
Bonjour.
Et votre complice, Grégoire Kalt, vous êtes photographe culinaire, globetrotteur aussi.
Bonjour.
Et vous êtes en tout cas tous deux épris de bons plats, de bons produits pour la santé, pour l'environnement aussi. Vous êtes les auteurs aux éditions Marabout du livre « Et si on mangeait moins de viande ?» Point d'interrogation. Il change tout, hein, ce point d'interrogation, puisque la question devient suggestion comme une idée lumineuse sans parti pris. D'où vous est venue cette idée de « Et si on mangeait moins de viande ?» Déjà, est-ce que c'est une interrogation? C'est une proposition? Comment est-ce qu'on doit la prendre?
L'idée du livre, elle part d'un constat qui est la façon dont on élève un peu les animaux dans nos pays développés. Toute cette industrie, la souffrance de l'animal, etc. Donc, à un moment, c'est vrai qu'on se dit, et si on devenait un petit peu raisonnable, sans forcément prendre la tangente de l'extrémisme.
Elle n'est pas venue du principe, tout simplement, qu'on avait l'impression qu'on mangeait peut-être déjà un peu trop de viande dans l'assiette, qu'on a tendance à en manger beaucoup, alors qu'on n'en a pas besoin d'autant. C'est pas du tout cette question-là qui vous a éveillé au début?
Aussi, c'est aussi du bon sens. En fait, on n'a rien inventé. Si on se rappelle de nos parents, etc. Dans les années, même quand j'étais gamin, on mangeait de la viande deux fois par semaine, le poulet le lundi et peut-être du bœuf le jeudi, quoi. Hein. C'était beaucoup plus mesuré. On nous a un peu fait croire qu'on pouvait manger de la viande tout le temps. Et malheureusement, on en mange de la très mauvaise. Donc l'idée, c'est vraiment ça. C'est d'en manger moins, d'en manger de la bonne. Et de trouver toutes les astuces grâce au talent culinaire de notre ami Thomas et aussi l'observation de la façon dont on cuisine à travers le monde pour donner du goût avec beaucoup moins de matière, en fait.
Thomas, c'est aussi une préoccupation pour le bien-être animal qui vous a guidé au début, ou c'est plus une question, un intérêt culinaire? Comment vous en êtes venu à ce cheminement?
C'est surtout une histoire de pote, en fait.
Tout
simplement. C'est Grégoire qui a eu l'idée du livre, du thème. Et puis, il est venu me voir avec cette idée. Il dit, mais faut qu'on fasse ce livre ensemble. T'as déjà des plats végétariens à ta carte de pourquoi on fait pas un truc ensemble, sur ce thème-là? Voilà. Donc après, on a réfléchi. On a créé, 120 recettes ensemble sur ce thème-là. Arriver à travailler la viande, mais avec 4 fois moins de quantité.
Oui, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc, vous avez des plats végétariens dans votre restaurant. Mais attention, là, l'idée, c'est pas d'opposer végétariens, ouais, à mangeurs de viande, amateurs de bonne viande, de bien braisé. On est vraiment dans un entre-deux. Et si, tout simplement, on se posait la question de si on en mettait un peu moins, comment faire pour avoir le goût? Et c'est ce qui est intéressant. Vous, c'est ce qui vous a plu? Parce que, en tant que cuisinier, c'est un peu un défi, j'ai envie de dire.
Ouais, c'était un challenge un peu, parce que ça aurait été plus facile de faire 120 recettes de l'ébauchoir.
Et
c'était assez vite plié. Mais là, il a fallu que je réfléchisse à chaque fois à comment, en même temps, amener du goût de viande, et en même temps, arriver à en utiliser 4 fois moins. Et en fait, ça marche assez bien, hein. À part le poulet rôti, mais sinon, qu'il n'y a pas dans le livre. Mais sinon, voilà, par exemple, l'exemple, c'est la terrine que j'ai amenée. Voilà.
Alors, ce qui est très rigolo, c'est qu'avant de vous demander de quoi elle était composée, moi, j'ai regardé et j'ai vu de la joue de bœuf. J'ai tout de suite vu de la viande dans cette terrine, parce qu'elle est d'apparence, tu l'as décrit, hein. Je la prendrai en photo, vous pourrez la voir sur la page du Goût du Monde. Elle est d'apparence, alors elle est verte, on a vraiment l'impression, on voit les feuilles, enfin, je pense que c'est du persil,
ouais,
ou
c'est du persil,
herbes fraîches,
ouais.
On voit.
C'est un peu l'idée, c'est un peu une terrine forestière, on va dire.
Voilà, mais on dirait, quand on la voit la première fois, j'ai pensé pot-au-feu, ou terrine, genre de reste de pot-au-feu. Et non,
c'est
en fait.
Ça.
Dedans,
ça.
On a quoi, Thomas?
Alors dedans, il y a un petit morceau de tête de veau, avec il y a un peu de langue dedans, il y a de la joue de veau, tout ça. Mais il y en a, au lieu de faire une terrine, que de tête de veau, où il y a vraiment une tête de veau entière pour faire une terrine, et dans laquelle on aurait mis un peu de persil, hein, l'idée c'est de prendre, j'ai pris 300 grammes de tête de veau, cru.
Ce qui est très peu par rapport à une terrine classique.
Et je l'ai fait cuire, mais c'est surtout la cuisson qui m'a intéressé, parce que la cuisson, elle a énormément de goût. Et la cuisson, elle est très gélatineuse, en refroidissant, ça devient très dur. Et donc, ça me permet après de cuire des champignons dans cette cuisson, de mettre du persil à la fin, de l'ail. On a fait cuire des noisettes dedans pour que les noisettes soient un peu molles et qu'on puisse les couper et qu'elles donnent du goût. Et au final, donc on a une terrine où on mange, on a le goût de la viande. Dans le cerveau, on comprend viande. Mais en fait, il y en a très très peu, il y en a 4 fois
on
moins.
On goûte viande, ouais. Mais en fait, il y en a... C'est ça, on inverse un peu les proportions, j'ai l'impression.
Ouais, ouais, complètement, ouais.
Dans vos recettes.
Puis c'est bien de mettre le légume un peu en avant, quoi.
Ouais. Et surtout, on réapprend à cuisiner. Mais ça, on va en parler, je crois, un peu tout le temps de l'émission, parce qu'on retrouve un peu les recettes de base de la cuisine, qui est que pour donner du goût, il faut faire mijoter, il faut faire revenir, faire des bouillons, des carcasses.
Et souvent utiliser des parties moins nobles, comme on pourrait les décrire, qui sont souvent pas consommées dans les supermarchés, et qu'on peut avoir chez le boucher, en tout cas en Europe, pour beaucoup moins cher. Donc c'est des plats qui sont aussi assez économiques.
Vous avez une recette je pense que c'est un plat avec de la queue de bœuf et de la betterave.
Ouais, un bourguignon de betterave et queue de bœuf.
Donc queue de bœuf, peu de viande.
Déjà à la base, la queue de bœuf, déjà c'est pas cher. En plus de ça, il y a beaucoup d'os dedans et il y a beaucoup de collagène. Donc le collagène, ça va épaissir la sauce, ça va donner un goût de satisfaction en fait. Ça nourrit, ça remplit. Mais il y a très peu de viande et rien qu'avec 400 grammes de queue de bœuf cru, on arrive à parfumer. La cuisson au vin rouge, dans lequel ensuite on va cuire nos légumes, les betteraves et tout ça. Après, il y a du travail. C'est vrai que c'est agréable parce que c'est vraiment... les recettes, elles sont assez faciles à faire. Hein.
Facile,
un
mais...
bourguignon, il y a du travail de pluche, quoi.
Ouais. C'est facile, mais il faut savoir prendre son temps aussi. J'ai remarqué que sur certains plats, il y a plusieurs heures de cuisson. Plusieurs heures, j'exagère un peu, mais au moins, il faut prévoir une heure et quart, une heure et demie. Ou
s'organiser dès la veille.
Mais justement, c'est cette approche-là aussi qui fait qu'on se pose aussi. Et on réfléchit à comment faire et comment réintroduire et comment redécouvrir. On prend du plaisir. Et puis, on est en famille. Et souvent, c'est sympa. Alors, je vous ai dit, en introduction de cette émission, que j'avais donc lancé sur les réseaux sociaux cette idée de, on va se passer de la viande, la viande, je l'ai enlevée de l'assiette. Seriez-vous prêt à vous en passer? C'est la question que j'ai posée. Oh là là, en croire certains, c'est pas pour demain. Joël Gonzou, par exemple, qui nous écrit de Douala au Cameroun, nous répond qu'il préférerait changer de planète. Lui aussi, il est un peu radical. Il faut dire que la viande, le braisé, c'est un peu sacré, quoi. Et Camille Caboret, qui est lui originaire du Burkina, qui vit et travaille en Crète aujourd'hui, il a été l'un des premiers à confier, que se passer de viande, d'en manger moins, en tout cas, ce serait franchement pas évident parce qu'il est totalement accro à la viande, Camille.
J'ai un rapport à la viande qui remonte jusqu'à l'enfance. Puisque quand j'étais enfant, c'était un peu compliqué de manger la viande, puisque c'était pas fréquemment. Dès lors que j'ai commencé à avoir des sous, mais pour acheter pour moi, on va dire ça comme ça. Donc, je suis devenu accro, quoi, si tu vois.
C'est un signe de quoi, alors, du coup, de meilleure qualité de vie que de pouvoir manger de la viande aussi?
Ouais. On peut dire ça comme ça, mais comme c'est devenu un peu une habitude pour moi maintenant, vu qu'aujourd'hui, actuellement, je ne peux pas manger sans de la viande, quoi. Je peux manger que dans mon assiette, il n'y a pas de viande. Ça serait un peu compliqué, vraiment.
Vous en mangez à quelle fréquence de la viande?
Le soir, quand je prends mon repas. Si en même temps, pas trop, parce que si c'est déjà visible dans mon assiette seulement, ça va. Ça veut dire que la quantité n'a pas vraiment d'importance, quoi. Comme actuellement, je cuisine moi-même. Donc, tout ce que j'essaie de préparer, il faut que je commence par la viande. D'abord, quoi, si tu vois, il faut que j'essaie de cuire la viande pour griller avant de... mettre, je sais pas, le riz ou les spaghettis, tu vois. Donc, ça fait que tout ce que je dois cuire de soir, forcément, il faut de la viande. C'est devenu une habitude, on va dire.
Mais il faut qu'on voit la viande.
Si déjà, je peux, à la fin de mon repas, prendre le dernier morceau, ça me va.
Conclure sur un bout de viande son repas.
Ouais.
Camille Caboret, donc, qui nous appelait de Crète. Et qui était un peu réticent. Il a écouté l'émission sur la cuisine afro-vegan. Déjà, pour lui, c'est difficile. C'est un peu un cheminement, en fait, de se décider. C'est davantage psychologique que physiologique, en tout cas. C'est la question qu'on peut se poser. Vous réussissez comment, justement, à le fait de voir la viande, même si c'est un tout petit bout, Thomas Dufaux?
Alors, moi je crois, j'avais lu que cet attrait qu'on a pour la viande, ça nous vient de genre la préhistoire, un truc comme ça, où c'est l'apport d'énergie le plus rapide en fait. On mange la viande et donc après ça nous permet de fuir ou de combattre. Et donc quand on est fatigué, quand on a besoin de se nourrir, quand on a besoin de reprendre des forces, notre cerveau il calcule en protéines animales. Mais c'est parce que il faut changer le cheminement et il faut penser protéines végétales. Et on peut très bien avoir de l'énergie en mangeant des pois chiches, Et je pense que, enfin, j'ai l'impression que par exemple ce monsieur, il a pas réfléchi à ça. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est juste que il y a comme un réflexe encore où, pour plein de gens, de se dire si je mange de la viande, je vais être en bonne santé parce que ça va me nourrir, ça va me donner de la force, je vais pouvoir bosser le lendemain et voilà.
Il le dit aussi, je sais pas, Grégoire, il dit, quand j'étais petit, je pouvais pas m'en acheter. Maintenant que je travaille, que je gagne mes sous, je peux m'en acheter. C'est aussi un signe extérieur de réussite et de richesse.
Tout à fait. Comme le fait d'être un petit peu fort dans certains pays, c'est une preuve de
bonne santé.
De bonne santé et de réussite sociale. Après, pour rebondir sur ce que dit Thomas, c'est vrai que maintenant, en tout cas, en Europe, pour la plupart des gens, on a des métiers qui sont physiquement beaucoup moins
difficiles
et donc, on a moins besoin de protéines, de calories par jour. Donc c'est aussi tout un cheminement, comme vous disiez tout à l'heure, où il faut qu'on apprenne à adapter notre alimentation à l'époque dans laquelle on vit. Et alors là, on rentre dans un grand débat, parce qu'il y a aussi la quantité de consommation qui devient de toute façon et qui sera à l'avenir très problématique. On pourra pas tous manger autant de viande qu'aujourd'hui. Donc
il faut. C'est signalé d'ailleurs dans un rapport l'organisation non gouvernementale EAT avec le magazine médical The Lancet. Ils ont dit en 2050, si on veut tous pouvoir manger, en tout cas nourrir les 10 milliards d'habitants de la planète, parce que nous serons 10 milliards vraisemblablement, faudra réduire drastiquement la quantité de viande qu'on a dans notre assiette et la substituer, en tout cas la remplacer par des protéines qui sont végétales, par des noix, davantage de légumes. Ça doit être un plaisir aussi d'aller. Enfin, quand moi je vois votre livre et les recettes que vous donnez, moi j'ai envie de sauter le pas clairement.
Alors c'était ça l'idée. Pour nous qui était primordial, c'était surtout pas de tomber dans un livre un peu
anxiogène, healthy, un peu
quinoa, etc. On voulait qu'il y ait de la gourmandise, on voulait qu'il y ait du gras, on voulait qu'il y ait de la générosité, de l'amour et aussi préserver nos traditions culinaires, en tout cas pour nous, parce qu'on est issu de la France, hein, c'est notre pays. Donc on voulait garder toutes ces caractéristiques-là dans les livres. C'était pour moi le plus important, c'était que le livre soit très généreux, très gourmand. Nous, on n'a pas de problème avec le gras. Il suffit d'en mettre un tout petit peu moins, mais c'est très bon. Les goûts, le gras est un exhausteur de goût. Le goût est dans le gras, comme disait je sais plus qui.
Mais qui avait raison.
Exactement. Voilà.
Alors, parlant de gras, je coupe des petites tranches, on va goûter à la terrine.
Volontiers.
Ça vous va?
Ah, tout à fait. Moi, je suis totalement partante. Je vais pouvoir évidemment la prendre en photo. J'aimerais revenir sur cette notion de cuisine. Donc, reprendre ces astuces, en fait, qui sont de faire des jus, faire des fumets. Par exemple, si je reprends un plat qui est votre plat avec du poulet et des pois chiches. Mm-hmm. Il y a peu de poulet dans ce plat. Et il y a des pois chiches.
Oui.
D'accord. Le poulet est coupé tout petit comme un pois chiche.
Oui.
Pour avoir l'impression d'avoir un plat avec plein de pois chiches et
plein de poulet. On ne sait pas si on mange du poulet ou du pois chiche.
Exactement. Alors tout ça, il faut travailler justement sur le visuel, c'est important aussi pour arriver à manger moins de viande.
Oh ben oui, mais comme n'importe quel plat, même si c'est un plat que de légumes ou même si c'est un plat avec que de la viande, le visuel c'est important, ça fait partie des plaisirs quoi.
Dans votre restaurant, vous en avez proposé des livres? Alors il y a 120 recettes dans votre livre, vous en avez proposé à la carte?
Des recettes, alors oui, mais j'ai essayé, mais sans vraiment prévenir. Et donc en fait j'ai eu des retours comme quoi c'était très bon, mais ça manquait un peu de viande. Donc, mais ça y est, j'ai prévu le coup sur la prochaine carte. Enfin, la prochaine fois que je vais en faire un, je vais mettre « Et si on mangeait moins de viande ?» avec en dessous le plat qui correspond donc au principe. Et là, comme ça, le serveur pourra expliquer. Parce que voilà, j'avais fait un bourguignon de betterave et de queue de bœuf, justement.
La betterave qui est très utile parce qu'elle apporte de la mâche.
Exactement.
C'est ce qu'on redoute pas mal, en fait.
Ouais. Et puis, en plus, bon, dans le bourguignon, il n'y a pas que de la betterave. C'est dans l'intitulé, c'est comme ça. Mais il y a des petits légumes. Donc, il y a vraiment tous les légumes qui rentrent dans un bourguignon. Et bon, les gens étaient très contents, mais ils disaient, il n'y avait pas beaucoup de queue de bœuf. Mais bon, c'est parce que le serveur n'avait pas bien expliqué ou parce que dans l'intitulé, ils avaient vu bourguignon de queue de bœuf et ils s'étaient dit, j'ai mangé une bonne queue de bœuf, voilà. Ça, bon.
Et la blanquette, pareil?
La blanquette, alors, oui, pareil, à chaque fois, à chaque fois, dans toutes les recettes où il y a vraiment, quatre fois moins de viande, quoi, et ça marche complètement, quoi. Mais c'est toujours le principe, c'est cuire la viande, pour donner du goût à la cuisson. Et c'est dans cette cuisson qu'on va se servir, qu'il y a un goût de viande, elle, qu'on va cuire les légumes et après faire une blanquette comme une blanquette normale. Mmh. Et la viande, dans la recette, la viande, on la remet à la fin en petite brunoise, en petit dé qu'on met par-dessus. Donc, notre ami tout à l'heure qui est intervenu, l'auditeur, il aurait de la viande dans son plat. Il serait content. Voilà. Et dans la sauce, il dirait, ah oui, ça sent le veau, c'est, mais en même temps, il en mangerait quatre fois moins. Voilà.
Quand je vois les boudins de champignons, par exemple, ça, c'est une recette typiquement végétarienne. Comment est-ce qu'on apporte un petit peu ce goût? C'est, on reste sur la sauce, on reste, vous voyez ce que je veux dire ou pas?
Alors la là, gourmandise, le goût, ça va être dans les épices, ça va être, dans la coloration après du boudin à la poêle. Et puis là pour cette recette là c'est les champignons, c'est vraiment les champignons.
Est-ce que c'est l'appellation boudin? On pense boudin, donc on pense viande, mais en fait il y a pas une once de viande dans cette recette.
Et là c'est une recette végétarienne, ouais, tout à fait, ouais.
Donc
ouais,
on est dans le faux semblant, dans le...
C'est une vraie escroquerie.
Absolument. C'est ce que je voulais vous dire, je trouve ça scandaleux. Dans votre livre il y a plein de recettes et en fait il y a jamais de viande, donc
alors il y a un tampon, hein, quand
oui, alors il y a des recettes 100% végétariennes. Voilà. Mais j'insiste parce que c'est pas, vous ne faites pas des recettes végétariennes, vous faites des recettes dans lesquelles il y a moins de viande, et c'est ça,
voilà,
qui est intéressant.
Mais il y en a quelques-unes qui sont végétariennes, voilà. Ouais. Et là, celle-là, elle faisait tellement déjà viandard dans son aspect visuel qu'on s'est dit, bon, bah là, on met pas de viande, quoi, ça va être rigolo, ça va déjà être viande par le visuel, quoi.
Ouais, et par le nom.
Et par le nom, ouais, ouais. Et à mon avis, au goût, je vous en fais manger et puis je vous dis non, dedans il y a du veau.
J'ai dit oui.
Ouais.
Bien sûr.
On peut se faire avoir facilement.
Évidemment. Ouais. Et c'est ça qui est intéressant. Parmi les autres recettes que vous avez aussi, en fait, je sais pas, est-ce qu'il y en a une par exemple dont vous voudriez parler, qui vous tient à cœur, qui vous a donné un peu plus de difficultés que les autres, où vous vous êtes dit, ah là, ça va vraiment être compliqué?
Non, il y en a qui sont très simples. En fait, moi, il y en a une que j'aime beaucoup parce qu'elle me vient d'une dame dans mon village en Bourgogne. C'est les pommes de terre farcies. Et elle est extraordinaire, cette recette, parce qu'en fait, elle est très très simple. Tout le monde peut la faire. L'astuce, c'est qu'en fait, visuellement, on va avoir un tout petit peu de viande au milieu de la pomme de terre. On la creuse avec un économe et on la farcit avec la farce de cochon on peut même faire des restes un petit peu de plat. Et l'astuce, c'est de la cuire dans un fond de bouillon un petit peu pour que ça se concentre. Le gras de la farce va un peu se répandre dans la poêle. Et on a une petite recette qui est accessible pour tout le monde et qui met en même temps la viande à l'honneur. C'est-à-dire que c'est la viande qui fait exister la pomme de terre d'une façon complètement différente. Et ça, moi, j'adore cette petite recette, mais qui est probablement une recette qui a 100 ans, que des gens faisaient dans la région quand ils avaient un peu de viande pour égayer la pomme de terre, qui est effectivement quelque chose qu'on peut se procurer assez facilement dans les familles modestes de la France, de l'avant-guerre et de l'après-guerre mondiale, quoi.
Oui, c'est
et
ça.
C'est
on
super
a...
bon. Ouais. Et c'est extraordinaire. Elle est super. Alors, après, c'est vrai qu'il faut toujours une bonne pomme de terre et puis essayer d'avoir une farce qui est de qualité assez correcte, quoi. Mais ça, c'est valable pour tous les plats. Et c'est ce qui sauve des plats simples, c'est la qualité des produits.
Vous avez apporté un ingrédient, un ustensile. L'ingrédient, alors il me montre. Alors, on a vu la terrine que vous verrez en photo. Et il a apporté également, Thomas, je vous laisse nous présenter donc, vos ingrédients fétiches, normalement.
Deux légumes qui, normalement... c'est des légumes de base, mais qui sont contradictoires. J'ai amené une tomate que j'ai achetée au supermarché qui est en face du restaurant. Et c'est la tomate qu'on peut acheter toute l'année au supermarché. C'est une petite tomate. Je pense qu'elle a été cuillée, elle devait être verte. Enfin bon, on va pas parler
elle
trop longtemps
orange,
de cette tomate,
en fait,
parce qu'en fait, elle a aucun intérêt. Elle a aucun nutriment, sûrement. Enfin bon.
Est-ce que vous savez que ces tomates ne pourrissent jamais?
Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, c'est très dur de les abîmer, quoi.
Voilà, c'est très très difficile.
On peut jouer un peu avec.
C'est ce que au début.
mais après, c'est pas la faute du supermarché, en fait, parce que lui, il va mettre en vente que ce que les gens achètent. Et comme disait Coluche, mais je vais sûrement m'en mêler les pinceaux, mais il disait que il faut arrêter d'en acheter pour qu'on arrête d'en vendre. Mais tant que les gens vont vouloir manger des tomates au mois de janvier, ils continueront à en vendre, c'est dommage. Bon, bref.
Et donc respecter ça, c'est... les saisons, hein, c'est ce que vous
oui,
dites.
Voilà, ouais,
voilà,
ouais,
tout simplement,
ouais,
respecter
ouais.
les saisons, où, déjà c'est moins cher.
De la tomate au restaurant, on commence à en faire mi-mai, début juin, et puis on arrête avec la tomate d'Île-de-France fin octobre, mi-novembre.
Et vous brandissez une carotte
maintenant. Et une carotte, alors elle vient d'Île-de-France dans le 77, c'est la ferme de Panfou. Les vergers de Panfou, Lily et Guy Barret, qui sont maraîchers et avec qui je travaille. Alors, ils me fournissent pas tous les légumes du restaurant parce que, en fait, ils montent sur Paris faire des marchés et ils me livrent le mercredi et le samedi. Et je fais un peu des grosses commandes, mais voilà. Donc, eux, c'est des carottes. Ils sont en agriculture raisonnée. Ils fournissent beaucoup. Hein, ils ont vraiment, ils ont de la production. Et bon, voilà. Donc, c'est juste une carotte. C'est le légume de saison. Et en plus de ça, donc, j'ai amené
votre ustensile,
qui est un économe. Alors pourquoi j'ai amené ça? Parce que c'est encore un des rares outils en bois qu'il y a dans les cuisines. Et puis ça épluche les légumes. J'aime bien le terme économe. C'est bien dans une cuisine.
Au propre comme à figurer.
Exactement, voilà. Et en plus ça va être utile parce qu'on va pouvoir éplucher la carotte. Ça fait un petit bruit sympa au micro. Et puis on va pouvoir y goûter. Et là on va s'apercevoir qu'en fait la carotte elle est super sucrée. Bon, je vais pas vous faire goûter la tomate parce que ça a vraiment aucun intérêt.
Merci.
Merci.
Mais voilà, elle a du goût, quoi.
Elle est très parfumée, elle a beaucoup de goût.
Voilà. C'était le.
Bon, moi, je vous propose une petite tête de chou maintenant. On est d'accord.
Ah bah oui. Allez.
Le goût du monde. Clémence de Navy.
Je suis l'homme à tête de chou. Moitié légumes, moitié mec. Comme ça, aussi sec. Quoi, moi, de mes rancors, des clous. Qui et où suis-je? Chou ici ou dans la blanche écume Varec, sur la plage.
L'homme à la tête de chaud, Serge Gainsbourg sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde avec le chef cuisinier Thomas Dufour, le photographe Grégoire Kalt. Et vous, fidèle au poste, nous répondons à la proposition lancée par nos deux invités. Une idée, et si on mangeait moins de viande? Alors, on a parlé de cette terrine depuis le début de l'émission et Annie Gasnier est avec nous. Elle passait à côté. Bonjour Annie.
Bonjour à tous.
Et elle a goûté donc cette terrine et on ne lui a pas dit de quoi elle était composée. Donc, quiz. De quoi pensez-vous qu'elle est composée, cette terrine, Annie Gasnier?
Je dirais qu'il y a du persil et de la gelée déjà autour. Mais après, il y a peut-être du fromage à l'intérieur.
Est-ce qu'on sent la viande? Est-ce que pour vous, c'est une terrine de viande?
On a l'impression qu'il y a comme de la viande ou du pâté, mais en même temps, ça n'a pas le goût. Donc, je pense que c'est pas de la viande. Mais je suis pas allée plus loin encore dans ma recherche gustative.
Non, il y a de la viande, mais il y en a beaucoup moins. Puis c'est de la tête de veau. La tête de veau, c'est pas non plus un goût très, très fort. C'est plus une texture, en fait.
Oui, effectivement, ça fait la texture de la terrine, mais en même temps, on a l'impression que c'est plus envahi par autre chose que par la viande.
Vous allez tout de suite dire, il y a de la gelée, il y a du parfum, il y a des herbes, c'est très frais.
Des et champignons, peut-être.
Plein de champignons.
Non, mais c'est vrai que ça se sentait aussi dans le goût.
Mais est-ce que c'est bon?
Extra.
Donc, bien sûr, on partagera cette recette. Merci beaucoup, Annie Gassier.
Merci.
C'était un test totalement improvisé. Merci à vous de vous être arrêtés. C'est super. Donc, on donnera tout ça. Alors, goûteux, on l'a dit. On a parlé de la gelée. Comment juste donner un petit peu ce goût de viande et laisser à penser qu'il y a de la viande, en tout cas bien plus qu'il n'y en a en réalité. Il y a des recettes qui sont un peu support dans cette démarche. Il y a les boulettes, évidemment, les farcis dont on a parlé juste avant, la tête de chou. Ça, c'est un peu des supports royaux pour donner un tout petit peu de viande, beaucoup de goût. Thomas Dufour, Grégoire Kalt.
Oui, ben, je parlais du chef, mais c'est vrai que par exemple, les boulettes, on met souvent un petit peu de pain dans les boulettes. On peut tricher avec les farces. Et c'est ce qui est intéressant. On peut farcir un poulet avec un tout petit peu d'abat et puis rajouter plein de choses dedans et le goût va être très fort, très prononcé. Mais je vais laisser Thomas parce que c'est l'expert, c'est lui le chef.
C'est pratique, une boulette. Un peu d'ingrédients.
Oui, c'est assez économique.
Enfin, c'est simple. Donnez-nous un petit peu. Moi, il y a des boulettes qui vont faire tomber tout le monde.
Ouais,
des boulettes de pois chiches avec le citron. Il y a aussi les boulettes avec la patate douce.
Ouais.
Voilà, on n'y penserait pas forcément.
Celle au riz que j'avais le plus aimé, je crois. Il y a le riz et noix de cajou, je crois. Non, on n'avait pas mélangé
tout riz ça avec
du raisin, ouais. Du safran. Et je crois qu'il y a un peu de poulet dedans, mais bon, on aurait pu pas mettre le poulet, en fait.
Oui, mais on peut en mettre.
Mais oui. Et en fait, on peut s'amuser. Et j'ai donné des proportions, mais en fait, on peut les changer, les proportions. Enfin, je veux dire, on n'a pas de poulet, on met du porc. On veut pas mettre de viande du tout, on n'en met pas. Enfin bon, on peut jouer avec les boulettes. Oui, c'est vrai. Ouais, complètement.
Les farcis, même principe.
Et les farcis,
il y a votre aubergine, par exemple. Votre aubergine farcie, il y a presque pas de viande.
Non, après oui, c'est vrai, on n'a pas parlé des fromages, mais on peut remplacer la viande, c'est bien. Les fromages, après c'est quand même d'origine animale, donc c'est pas forcément toujours une solution de mettre du fromage, de remplacer la viande par du fromage, parce que ça n'empêche pas les animaux d'être maltraités ou bon.
J'aimerais juste insister sur le fait qu'avec un tout petit peu de viande, comme on l'a dit depuis le début de cette émission, et même voire pas de viande du tout, mais juste le bouillon en fait. Le bouillon, les astuces qui permettent de cuire et de donner du goût en utilisant de la viande, même le bouillon cube. Nous, en Afrique, il y en a énormément. Nous, dans cette émission, on a tendance à dire faites vos bouillons maison, faites vos bouillons maison. Et là,
On donne des recettes de bouillon et à la fin, on donne des petites astuces.
C'est plus que des astuces, c'est une boîte à outils. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est pas juste bâtonner. Si vous n'avez pas ça dans vos placards, vous pourriez faire ça. C'est une boîte à outils. C'est vraiment quelque chose de très concret pour pouvoir donner la petite touche qui va donner du goût, du croquant, de la saveur. Et il y a notamment le bouillon.
Tout à fait. C'est l'idée de se réorganiser aussi dans son frigidaire et dans sa cuisine. C'est-à-dire, si vous cuisiner un poulet, vous allez le découper, en sortir les lobes, etc. Et avec la carcasse, on se fait un bouillon, on le met au congélateur, on le met au frigo, on le garde quelques jours au frigo, on le garde au congélo. Et à chaque fois dans sa cuisine, on est organisé pour pouvoir faire ces recettes-là qui nécessitent, parce qu'une des astuces, c'est comme les réductions des goûts, la concentration des goûts dans les bouillons. Thomas me contredira si je dis des bêtises,
mais bien sûr.
Je le vois qu'il me regarde avec son œil professionnel. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire de reprendre le processus de la cuisine d'une autre manière pour s'organiser chez soi, dans la façon dont on achète, dans la façon dont on consomme. Et c'est aussi l'idée d'utiliser toutes les parties de l'animal, c'est-à-dire qu'on ne jette pas la carcasse parce qu'on a décidé de faire le poulet en morceaux ou en... Donc c'est d'utiliser chaque partie de l'animal, c'est aussi la meilleure façon de lui rendre hommage, en fait. C'est-à-dire de ne pas...
N'utiliser que la moitié.
Voilà. Ouais. Moi, je me le dis souvent, quand je mange la viande comme ça, je me dis, si on finit le plat, cet animal n'est pas mort pour rien. Donc, il y a aussi cette dimension-là de respecter l'animal, de respecter les éleveurs aussi, parce que c'est aussi un métier extraordinaire, des gens qui souffrent beaucoup dans nos pays, de respecter leur travail, l'amour qu'ils ont pour leurs animaux. Et donc, nous, dans notre cuisine, notre rôle, c'est de pas gâcher ça, de respecter ça, de le payer le prix qu'il faut pour que ce soit la qualité à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'élevage social, des employés, etc. Et donc, ces idées de réduction de bouillon, elles vont aussi dans ce sens-là.
Et d'économie.
On peut se permettre d'acheter une viande de meilleure qualité en mettant 4 fois moins, quoi.
Mais ce qui est intéressant, c'est que partout dans le monde, on fait ça. Quand on pense à des soupes, par exemple les shorba, il y a un tout petit peu de viande, mais ce sera du mouton qui va vraiment parfumer. On aura l'impression d'avoir un plat de mouton.
Tout à fait.
En Éthiopie, l'injera. L'Éthiopie est très végétarienne, donc on va avoir beaucoup de légumes, des lentilles et tout, et un tout petit peu de viande crue. Et ça suffira, en fait, à avoir cette impression de viande. On a une habitude de cuisine qui est autre, qui est pragmatique, économique. En Italie, par exemple, dans les Pouilles et dans la région de Naples, il y a une tradition culinaire qui s'appelle la cucina povera, qu'on traduit littéralement la cuisine pauvre et qui est en réalité trouver une cuisine faite de peu. On n'a pas besoin de beaucoup d'éléments pour pouvoir avoir de beaux plats qui nourrissent. Alba Pezzone était venue justement nous parler de cette cucina povera dans le goût du monde. Et elle a évoqué deux faux semblants comme ça que je voudrais partager avec vous.
J'ai souvenir de ma grand-mère qui me préparait des polpette di pane, des boulettes faites dans lesquelles il n'y avait pas de viande. La viande avait été empressée par du pain rassis. Mais moi, j'adore. Et encore aujourd'hui, vous me laissez choisir entre les polpette di carne, beaucoup plus coûteuses et gastronomiques, et les polpette di pane. Mon cœur ne balance pas du tout, ni mon ventre, ces polpette di pane. J'adore ça. Par exemple, je me rappelle très bien d'avoir déjeuné un jour sur un bateau de pêcheurs. Bien sûr, les pêcheurs, ils pêchent du poisson, mais le poisson est destiné à la vente. Mais j'ai mangé chez eux des pâtes, des spaghettis alle vongole fuyute, c'est-à-dire des pâtes au goût des palourdes qui venaient de s'enfuir. Quelle était l'astuce? Eh ben, tout simplement, les spaghettis avaient cuit dans une eau dans laquelle on avait glissé des galets pêché au fond de la mer. Et le galet avait le goût de la mer. Et pour moi, c'est ça. Naples, voilà, voilà cette cuisine un peu du faux-semblant.
Grégoire Calte, en écoutant Alba Pezzone, ça vous avait pensé à une de vos recettes?
Tout à fait, les dombrés, qui est une recette antillaise, qui consiste à faire des petites boulettes avec de la farine et de l'eau, et qu'on va faire cuire dans un bouillon, dans la sauce, en fait, et qui vont donner une épaisseur au plat, et qui ont une consistance assez extraordinaire, très sympathique, et c'est un plat très économique. Voilà, c'est ces traditions-là, en fait, hein, qui nous viennent de nos ancêtres. C'est des choses qui se sont faites pendant des décennies, et qui sont très intéressantes. Et c'est vrai, comme dit Alba, on n'a pas du tout besoin de mettre beaucoup de viande. C'est un réflexe un petit peu tronqué de montrer son aisance, sa fortune, mais en réalité, les goûts, non, c'est pas ça. C'est l'équilibre aussi. C'est intéressant dans un plat d'avoir la balance, l'équilibre entre le végétal, le goût de la viande ou des condiments comme la farine ou la pomme de terre qui sont très nourrissants, qui calent un peu les estomacs pour les gens qui font des exercices physiques un peu importants dans la journée. Donc oui, c'est super ce qu'elle dit, Alba. C'est hyper intéressant.
C'est malin, le coup des galets.
Les galets.
Ouais, c'est top ça.
Pour donner le goût de la mer.
Ouais.
Mais c'est ce que vous faites également aussi, vous donnez le goût par des bouillons, par ne serait-ce que dans les pâtes et croûtes aussi. Les pâtés, en général, à partir du moment où on a une croûte, on va utiliser déjà ce qu'on aurait pu jeter, donc on l'utilise autrement, et on donne du goût, on n'a pas besoin de beaucoup de viande aussi. Enfin, je vois votre tourte de pommes de terre, par exemple.
Oui, ouais. Celle-là, ouais. En plus, je crois qu'elle est végétarienne, cette recette. Ouais.
Mais on pourrait mettre un tout petit peu de lard, un petit peu de
viande
de bœuf séché.
Bien sûr, oui, c'est parce que, voilà, on voulait faire une tourte végétarienne. Après, les tourtes, oui, c'est ça, c'est le côté rassasiant, et on l'a par la croûte. Pareil pour une tourte, dans toute la pâte. Après, on fait comme on veut, quoi. Non, mais c'est vrai, je veux dire, il n'y a pas de règles strictes, et c'est ça qui est bien, en fait. On peut, on met ce qu'on veut dedans, et si on le fait intelligemment, la pomme de terre, le fromage, par exemple, dans le cas de cette tourte, c'est très nourrissant, c'est très goûteux.
Et c'est très gourmand.
C'était l'idée du livre, en fait, de donner des idées. C'est pas.
Oui, c'est ça.
C'est de donner des idées, des réflexes et des façons de procéder qui changent un peu nos comportements, hein, Thomas. C'était vraiment la base, quoi.
Mais
et encore une fois, on n'a rien inventé, on voit ça dans le monde entier. Moi, j'ai des souvenirs en Inde de gens qui m'avaient reçu avec un tout petit morceau de viande qui était gros comme une balle de tennis, et on avait mangé à 15 dessus, mais ils avaient mis beaucoup d'oignons, beaucoup d'épices, il y avait du riz. Et en fait, c'est
colorer la viande.
Exactement, et sorti des sucs, etc. Ça, c'est des techniques dont Thomas peut parler, qui sont très importantes,
mais
la façon
vous
dont on cuit.
D'ailleurs.
Tout à fait, qui sont dans le livre, c'est la façon dont on cuit, de bien saisir le peu de viande qu'on met pour en dégager le maximum de sucre, de déglacer. Moi, j'ai appris ça, je cuisine comme ma maman, mais je suis pas du tout chef, mais j'ai vu les chefs faire ou dans mon travail, et c'est vrai que c'est ça qu'il faut retenir dans le livre, c'est les façons de cuire qui sont importantes pour donner du goût.
Pour lier,
c'est toutes ces techniques-là qui sont en fait assez basiques. C'est l'idée de la trousse à outils aussi. On donne un petit mode d'emploi, des idées, et puis après les gens ils s'amusent et ils interprètent eux-mêmes leur recette familiale de la même manière.
Je reviens deux minutes sur le bien-être animal et sur le respect que l'on doit à l'animal. Je crois que c'est quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, on l'a compris. Au Togo, vous aviez une observation dont vous m'aviez parlé lorsqu'on a préparé cette émission sur justement les poulets.
Tout à fait. J'ai eu à un moment de ma vie une maison à Lomé, et donc on achetait des poulets vivants sur le marché de Lomé, et Donc on les gardait une journée, deux, et puis quand il fallait les manger, on les tuait dans la cour. Et il y avait un rituel qui était fait là-bas, c'était de prendre le poulet avant, et dans une petite écuelle, il y avait un petit peu d'eau, et de lui donner un petit peu d'eau juste avant de le tuer, pour un petit peu en même temps le détendre, lui faire oublier qu'il allait lui arriver quelque chose d'assez radical. Et j'avais trouvé ça très intéressant, et c'était quelque chose qui était fait de façon quotidienne. Et voilà, c'est le respect. Pour moi, ce livre, en fait, à la base, je crois que la grande idée, elle vient de là. Elle vient de se dire, on peut pas continuer à traiter les animaux comme ça. Le principe de l'élevage, à la base, c'était quand même de... On protégeait des animaux qui étaient vulnérables, les moutons, etc. Et en échange, ils nous donnaient leur vie. À la fin, une fois qu'on les avait bien engraissés, c'était un petit peu ça, le deal, en fait, d'une certaine manière. Et on en est arrivé à un moment où, en fait, on les maltraite, on les mange, et on leur donne une vie qui est absolument insupportable. Les cochons, dans les élevages industriels, c'est juste... c'est inhumain, mais en fait, c'est assez étonnant de dire ça, d'ailleurs, parce que c'est... c'est absurde. Voilà, donc c'est ce livre, il, pour nous, en tout cas, dans notre prise de conscience contemporaine, c'est ça, c'est aussi changer notre attitude et se poser des questions sur la façon dont on se nourrit et la façon dont on nourrit nos enfants, nos amis, les gens qu'on aime, parce que la cuisine, c'est, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est un acte d'amour, hein, d'une certaine manière, on donne quelque chose et la personne le met dans son corps, c'est pas anodin, c'est quelque chose de très important. Alors il y a des gens qui sont très radicaux, parce que je pense qu'ils supportent plus cette façon de traiter les animaux, ça se comprend, moi j'ai pas de regard, je juge personne. Nous on avait envie, voilà, de rentrer avec conviction, force entre les deux, parce que l'élevage, c'est quand même aussi une partie, c'est un savoir-faire, c'est des gens qui vivent de ça, c'est des paysages qui se façonnent avec l'élevage.
Au gré de l'élevage. Et
tout à fait. Les Cévennes ne seraient pas les Cévennes s'il n'y avait pas eu les élevages.
Et de l'agriculture, d'ailleurs.
Et l'agriculture, tout ça. Donc, tout est très lié. Ouais.
Je vous propose d'écouter Éric Sanso. Alors, Éric Sanso, il est éleveur dans les Yvelines, à l'ouest de Paris. Il a une ferme dans laquelle il élève des vaches, mais des vaches peut-être un peu moins communes que celles qu'on a l'habitude de manger. Enfin, un peu toutes sortes de des aubrages, des aurochs et tout ça. Et ces bêtes sont au pré, dans une étable très aérée, puisqu'elle est en bois et en musique.
Elles sont belles. Alors, vous voyez que quand on rentre dans l'étable, elle vous jette un coup d'œil et ça s'arrête là. Pas comme vous pouvez avoir dans certaines étables, des bêtes qui se ruent sur les cornadiers en meuglant parce qu'elles ont faim. En fait, moi, elles n'ont jamais faim parce qu'elles sont avec du foin à volonté. Donc, elles se nourrissent tout le temps. Elles n'ont pas de nécessité d'aller meugler pour réclamer de la nourriture. Elles mangent à leur rythme. Ensuite, elles se retirent dans le fond des stabulations. Elles ont toute la place qu'il faut. Et chaque fond de stabulation a encore une ouverture pour permettre aux veaux de se mettre tranquillement à l'abri et de se faire tout seul. La vache qui a un cœur, j'en ai deux avec des cœurs, enfin c'est une blague.
On dirait presque une pinoise.
Ouais, et ben c'est un croisement entre de la Simmental de Bavière et de l'Angus d'Aberdeen. Voilà, et semble-t-il que ça va faire une viande exceptionnelle.
La vache toute noire là, qui est là, c'est quoi ?
Black Angus d'Aberdeen.
Mais
sur des gros gabarits, moi je travaille avec des gros gabarits, pas avec les petits trucs là qu'on mettait dans les camions à moutons. Et vous voyez par exemple ce petit veau, il est déjà moitié cullard. Et pourtant, ils sont simplement, comme vous pouvez le constater, nourris au foin. Ça, ce sont des petits jeunes. Donc vous avez du salaire, mais regardez la bête qui est en train de faire sa bouse là-bas. Le dos est déjà bien tendu, vous avez déjà des culs qui sont magnifiques. Ça, c'est des tout jeunes. Hein. Oui, ils sont tranquilles, regardez-les là. C'est pour vous dire à quel point ils sont paisibles, ils sont tranquilles. Il ne faut pas oublier qu'une bête qui vit dans un grand bâtiment et qui marche, une bête qui ensuite passe le printemps, l'été et l'automne en prairie, ben c'est une bête qui marche, donc c'est une bête qui est musculeuse et c'est une viande qui est plus ferme. Aujourd'hui, un consommateur qui achète une viande extrêmement tendre, eh bien, il faudrait qu'il se pose la question de savoir comment elle est nourrie. C'est essentiellement à l'ensilage de maïs et au tourteau de soja. Des bêtes qui sont parquées dans des feedlots et qui mangent à profusion, donc effectivement, il y a du joli gras. C'est extrêmement tendre, mais mesdames, messieurs, vous mangez de la viande qui va vous donner, en plus d'un bon goût, du cholestérol et du diabète. Donc privilégiez les bêtes qui ne mangent que de l'herbe ou sous forme de foin quand il est coupé, parce que là au moins, vous aurez dans votre viande autant d'oméga 3 que d'oméga 6 et vous ne risquez pas d'attraper du cholestérol et du diabète. Et vous avez pu voir donc le calme de toutes ces bêtes, la gentillesse qu'il y a dans les yeux. Alors maintenant, ce sont pas des animaux de compagnie. Très égoïstement, j'ai pas envie non plus de renouer une relation trop proche avec mes bêtes, parce que les faire monter dans le camion pour partir à l'abattoir, c'est pas possible. Déjà, ça me crève le cœur juste de les voir et de les savoir bien. Donc Si vous devez les gratter derrière les oreilles, leur prendre les pattes et leur parler, non, vous pouvez plus les faire monter dans un camion. C'est difficile pour un éleveur, la partie abattage. Donc c'est pour ça que moi je suis hyper vigilant sur le transport et la façon de les abattre. On a malheureusement, on n'a pas suffisamment de visibilité sur la partie abattage. Mais je pense qu'après certaines discussions avec des gens bien placés, on pourra obtenir une meilleure qualité d'abattage en France. En tout cas, je milite pour. Il ne faudrait pas grand-chose à modifier pour qu'on soit proche de la perfection, en tout cas dans l'abattage. Un process où la bête n'a ni souffrance ni stress, et il faudrait vraiment arriver à l'obtenir en France. Et vous voyez, avec la musique classique qu'on a dans les tables, et ben vous avez un calme incroyable de toutes les bêtes. Voilà, elles vous regardent, elles sont tranquilles, elles sont peinardes, elles mangent, elles prennent le temps de vivre. Les mamans sont avec leurs petits veaux, les petits veaux sont tranquilles, les bêtes sont en très bel état. Voilà.
Je crois qu'elles n'ont pas faim. Sans juste bien.
Juste bien, nos vaches chez Eric Sanso. Alors, si je vous ai vu un petit peu opiner du chef, êtes d'accord avec cet éleveur, vous en pensez quoi?
Je pense qu'il a tout compris, quoi. C'est, on sent l'éleveur heureux.
Et passionné.
Ouais.
C'est ça qui est extraordinaire, c'est que.
Il faudrait qu'ils soient tous heureux comme ça de faire le métier qu'ils font, parce qu'il y en a plein qui souffrent, quoi.
Ce qu'il disait d'ailleurs, difficile d'envoyer à l'abattoir des animaux qu'on bichonne et qu'on aime et qu'on apprécie, donc il garde un petit peu de distance vis-à-vis de ça, mais ne serait-ce que prendre soin de ses bêtes, c'est ce lien-là qui s'instaure, c'est important pour l'éleveur.
Tout à fait, oui. Et une des façons de les soutenir, c'est, alors là je fais un peu la réclame pour le livre, mais c'est d'en acheter moins et de la payer plus cher. C'est aussi simple que ça en fait. Et si on a du respect pour ces gens-là, parce que c'est des gens passionnés qui, en tout cas en France, ont des vies des fois qui sont très difficiles, qui sont confrontés à des problématiques compliquées à régler. On en mange un peu moins, on l'achète chez un boucher et on le supporte. L'idée de dépenser en supportant des gens, je trouve que c'est une idée intéressante. Je dépense un euro, je subventionne quelqu'un. Et ben, des gars comme ça, on a envie de les subventionner, on a envie de leur donner. Et ce qui est marrant, c'est qu'on leur donne de l'argent avec plaisir, en fait. On retrouve le sens de dépenser sans être frustré, sans avoir l'impression de se faire avoir, etc. Et supportons ces personnes extraordinaires.
Des éleveurs et des agriculteurs.
Notre façon de consommer, en fait, c'est un acte militant, en fait. Hein. Forgive me, that's all I can do. Can you feel my heart beat when I'm close to you? Can you feel my heart beat when I'm close to you? I'll never find another way to say I love you more each day. It's quite romantic, I know. That's how I wanna feel today.
Heartbeat, battement de cœur de Tahiti 80 sur RFI. Vous écoutez Le Goût du Monde. Dans les vieux pots, on fait les meilleures confitures, c'est bien connu. Donc dans les vieilles marmites également, les meilleurs ragoûts. Parce que ça mijote, on cuisine. Et si on met moins de viande, ça marche aussi. Et c'est ça qu'on voit depuis le début de cette émission avec Thomas Dufour, chef, cuisinier de l'ébauchoir, et Grégoire Kalt, photographe, globetrotteur et photographe du livre qu'ils ont publié chez Marabout. Et si on mangeait moins de viande, moi j'adhère totalement à cette proposition. Vous nous direz, et peut-être vous nous enverrez vos recettes sur Le Goût du Monde pour savoir un petit peu si c'est une proposition qui vous tente et si c'est un défi que vous êtes prêt aussi à relever. Est-ce qu'on pourrait revenir sur votre boîte à outils avec notamment parmi les petits condiments, il y en a un avec cacahuètes, oignons frits et piments. Donc ça, c'est une sorte de poudre un peu qu'on peut mettre sur les bouillons, qu'on peut mettre.
Oui, alors ça, c'est un truc qu'on a un peu inventé en le faisant. Et en fait, ça marche très bien. On met ça sur une salade, on met ça dans une soupe, on met ça sur un risotto, pourquoi pas. Hein, ça fait amener un truc croustillant. Ça se garde pas trop. En fait, on l'a fait. Je sais pas si on a marqué qu'on pouvait le garder. Et en fait, le piment, on le fait avec un piment frais. Et on s'est aperçu quelques jours après que.
Qu'on pouvait pas garder un.
Ouais. En fait, le piment frais ramollit un peu les oignons frits, tout ça.
Mais vos échalotes confites donnent.
Mais il suffit de les repasser à la poêle, en fait, de reprendre notre. Faut pas le jeter. Il suffit de le repasser à la poêle. Ça refait sécher un peu l'ensemble.
Et du coup, ça recroustille. Il y a aussi de l'huile faite avec les échalotes confites. En fait, on a plein de petites choses qui semblent
rien. Ça, c'est un bon exemple. C'est la page d'avant. C'est le citron confit. Parce que ça, en fait, citron confit, ça, on peut faire vraiment plein de trucs avec. L'eau du citron confit, qui a une eau très salée.
C'est une saumure, en fait.
C'est une saumure, oui. Mais l'eau, elle est très parfumée, elle a un goût de citron, elle est un peu sirupeuse. On fait des vinaigrettes avec, c'est extraordinaire. Et puis les citrons confits, ça a tellement, c'est tellement facile d'aller en acheter un qui est pas bon. Et là, vous en faites un bocal à la maison, vous le gardez 6 mois dans le frigo. Après, ça bouge plus, quoi.
On a un peu de sucré aussi dans votre livre.
Alors, il n'y a pas de dessert.
Il y a un peu de sucré. Ouais. Alors, dites-moi.
Mais moi, j'aime bien le sucre. Ouais,
c'est... Avant de parler de sucre, juste une dernière chose sur le lard blanc aux herbes, Grégoire Kalt.
Ouais.
Vous nous avez apporté, d'ailleurs.
Je suis venu avec un... Vous m'avez demandé d'amener...
Un ingrédient.
Alors, je suis venu avec de la poitrine fumée. Parce que c'est quelque chose, c'est typiquement la boîte à outils. C'est quelque chose que j'ai en permanence dans mon frigidaire, parce que même si vous avez plus de beurre, vous pouvez toujours graisser le fond d'une poêle avec pour faire des œufs. Et en petite quantité, ça vous sauve une salade, un plat de pommes de terre, etc. Et je suis venu avec une cocotte qui est assez chic. C'est une cocotte d'un designer finlandais qui s'appelle Sarpaneva. Mais la cocotte, voilà, c'est
sans manche, on dirait presque l'attelage d'un zébu.
Ouais. Elle est assez belle, hein. Et la cocotte, on en trouve dans tous les pays du monde. C'est un mot d'ailleurs qu'on utilise pour sa chérie des fois, ma cocotte, hein. C'est quelque chose de très rassurant. Et en fait, une cocotte, s'il y a un plat à avoir, c'est celui-là, parce qu'on peut même faire un œuf dedans, limite si on est un peu coincé.
C'est l'indispensable
polyvalent,
la marmite, la cocotte.
Voilà, il y a quelque chose de rassurant. Moi, j'aime beaucoup les cuissons lentes comme ça. Alors en Bourgogne, j'avais un poêle à une époque, je laissais la cocotte sur le poêle, je partais en forêt, je revenais, ça avait cuit, ça s'était un petit peu éteint. Voilà, c'est une façon de cuisiner que je trouve assez assez extraordinaire. Moi, je suis un amoureux des cocottes.
Et que vous prenez d'ailleurs tout au long de votre livre. Pareil, on a beaucoup parlé de viande, mais il y a aussi des poissons.
Oui.
Qu'on oublie aussi dans vos plats. On mange notamment un aioli ou juste un tout petit peu de poutard qui permet de donner ce petit goût de poisson.
Ouais, je trouvais ça assez rigolo de faire ce plat. C'est comme pour le pot-au-feu, en fait, il y a tous les légumes qui vont avec l'aioli. Il y a l'aioli en lui-même. Et puis, comment faire moins de poisson? Donc, au lieu de mettre un tout petit morceau de cabillaud et que ça aurait fait un peu ridicule, on s'est dit, on va râper de la poutargue sur l'ensemble. Et la poutargue, c'est iodé. Enfin, ça a un goût de poisson fort, en fait. Et ça suffit à faire l'illusion, quoi.
Ça, dans la boîte à outils, je vous préviens, en Afrique, on va rajouter de la poudre de crevettes séchées. C'est le même principe.
Tout à fait, complètement.
Et là, on est les rois du monde.
Bah ouais.
Et ben voilà. Merci beaucoup.
Merci
à vous. Thomas Dufour, merci pour cette mine que nous allons partager, décliner à nous les bons petits plats. Je vous l'assure, Thomas Dufour, on vous retrouve dans votre restaurant Les Beauchoirs, 45 rue de Citeaux, dans le 12e arrondissement de Paris, près de la gare de Lyon. Grégoire Kalt, sur le net.
grégoirekalt.com, c'est mon site.
Et on vous découvre. Voilà. Photographe culinaire.
Pas uniquement, j'ai beaucoup de voyages, du portrait, des choses comme ça, de la vie, de l'humain, de l'amour, voilà.
De la vie, de l'humain, de l'amour, tout ça quoi, dans
et
une bonne cocotte. Et si on mangeait moins de viande est publié chez Marabout, et vous dites-nous un petit peu, donc, est-ce que ça vous a donné envie de cuisiner des recettes comme ça, avec moins de viande? Donnez-nous un peu vos recettes, vos secrets, une petite photo, vous publiez sur les réseaux sociaux, sur la page du Goût du Monde sur RFI.fr, et bien sûr sur Facebook, WhatsApp, n'hésitez surtout pas à partager avec nous. Merci beaucoup à Cécile Bonici qui a réalisé cette émission, vous pouvez la partager, l'aimer, la podcaster le jour comme la nuit. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même table, même heure, d'ici là, prenez bien soin de vous. Tout de suite, le journal sur RFI. Mijotez rien que pour vous, cette émission était une rediffusion.